I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Serre, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, on tricard, me serrer la main, me serrer la main, serrer la main.
Ça, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, maman solo, auteur du blog Mademoiselle Love, et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Lorsqu'Aurélie a décidé de faire son premier enfant, elle n'avait pas imaginé une seconde qu'elle entrait dans un véritable parcours de combattante. Presque 5 ans de tentatives pour devenir mère, avec une infertilité que la science ne saura jamais lui expliquer. Dans cet épisode, Aurélie nous raconte toutes ses années d'essais, de doutes, d'examens, de PMA, de questionnements, de FIV, d'insémination, d'ovulation, de déception, jusqu'à sa résilience qui va complètement modifier son regard sur ce parcours. Mon infertilité inexpliquée, c'est le 43e épisode du podcast Le Tourbillon. Bonne écoute.
Bonjour Aurélie, merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans Le Tourbillon.
Bonjour Shane,
merci. Alors depuis combien d'années tu es en couple avec ton chéri ?
Alors ça va faire bientôt 8 ans.
Est-ce que tu as toujours ressenti un désir de maternité ?
En fait, je ne me suis jamais vraiment posé la question. Je me suis toujours dit que oui, j'allais être maman et qu'on allait être parents, mais sans me dire vraiment comment ça se passait, par quelles étapes on allait devoir passer. Et je m'étais aussi toujours dit, à 27 ans, je serai maman. Je ne sais pas pourquoi, depuis j'ai fait de l'introspection sur le pourquoi 27 ans, parce que évidemment c'était impossible à 27 ans, parce que je me suis mise en couple avec mon compagnon actuel entre 25 et 26, donc il y a quand même des... Enfin voilà, je ne voyais pas précipiter les choses. Et puis à 30 ans, âge symbolique, je pense que j'ai été assez longtemps focalisée sur l'âge, à me donner des espèces de guidelines en me disant « là, il faut faire ci, là, il faut faire ça », mais pareil, sans me poser de questions. Et à 30 ans, du coup, on s'est dit, enfin à mes 30 ans, parce que mon conjoint en avait 34-35 à l'époque, on s'est dit « bah ok, on est prêt ». Voilà, on se lance dans l'aventure de la parentalité. Bon, après, ça s'est pas passé exactement comme prévu, mais en même temps, on n'avait rien prévu non plus. Donc, voilà.
Donc, en fait, ce qui s'est pas passé comme prévu, c'est que vous avez essayé et il s'est rien passé.
Exactement. En fait, alors c'était en septembre 2014. Là, je m'en souviens, hein, parce que... Et au début sans pression parce qu'on se dit bah ok j'arrête la pilule, on sait qu'il faut un peu de temps pour que le corps de la femme reprenne un petit peu ses marques après plusieurs années de pilule, donc voilà, on se dit allez 6 mois, 1 an ça va passer quoi. Et puis bah il se passe 6 mois, 1 an, mais en fait il se passe rien, mais rien du tout, et en même temps sans trop surveiller non plus, enfin j'étais pas à l'affût de mes courbes de température, de voilà, viser à peu près le bon moment, mais en se basant, en pensant que c'était voilà, un cycle de 28-30, J14, enfin bon, ce qu'on sait de l'école, mais voilà, sans avoir de notion particulière finalement sur les cycles, les vrais cycles de la femme. Et au bout de 6 mois, moi j'ai commencé à me dire, bon quand même, 6 mois, bon. Ok, on continue. Et puis un an, là j'ai dit non, mais ok, il y a un problème.
Ouais, enfin, au bout d'un an.
Ouais, il y a un an. Au moins d'aller voir quelqu'un et qui me dise oui, mais c'est normal, enfin, continuer un peu, c'est normal. Donc je suis allée voir ma gynéco. À l'époque, on était sur Aix-en-Provence. Je vais voir ma gynéco, avec qui j'avais pas forcément une relation particulière, parce que ça faisait que 2 ans qu'on était sur Aix-en-Provence. et qui me dit, alors pour le coup, parce que j'attendais, enfin si, genre, continuez quoi, mais sans avoir un discours rassurant ou même ne serait-ce que à nous expliquer ce qui peut se passer. Mmh. Et il se trouvait, donc ça devait être à peu près à l'été, et il se trouvait qu'en septembre, mon conjoint déménageait et moi je le rejoignais en novembre sur Bordeaux. Donc on s'est dit, bon, dans tous les cas, ça sert à rien de lancer quoi que ce soit sur Aix. Dans tous les cas, elle nous en avait même pas parlé. Enfin, c'était peut-être même trop tôt pour elle, dans sa tête, finalement, ouais. De parler de PMA. Mais par contre, j'anticipe et je prends un rendez-vous pour novembre avec une gynéco sur Bordeaux spécialisée fertilité. Arrive novembre, le rendez-vous. Et effectivement, bah là, elle me dit, bah oui, ok, vous avez bien fait de venir, ça fait un peu plus d'un an que vous essayez, vous avez 30 ans passés, monsieur 35, enfin 34-35, ok, on va faire un bilan de fertilité. Et en fait, c'est là que, bah, c'est là que tout s'enchaîne, quoi. Bilan de fertilité, examen en tout genre, et puis bah, les lettres PMA qui sont prononcées. Alors, je sais pas du tout, en fait, j'arrive pas à me souvenir si j'en avais déjà entendu parler avant de la PMA. Mmh. Je sais que j'avais des amis qui avaient eu des difficultés pour avoir des enfants, mais finalement, quand on n'est pas concerné, alors, c'est pas que j'étais pas concernée par mes amis, mais quand on n'est pas sur le sujet d'avoir des enfants, on comprend qu'elles ont des difficultés, mais sans vraiment savoir tout ce qui se passe, les détails, etc. Donc bah là, on découvre un monde, bah, le monde de la PMA. Mais par contre, ça ne m'a jamais, en tout cas moi, ça ne m'a jamais posé de problème. Je ne me suis jamais dit, oh là là, c'est la catastrophe, je vais faire un bébé éprouvette, tout ce qu'on entend. Non, je me suis dit que c'était une aide et que s'il fallait qu'on passe par là, bah, on passerait par là.
Ouais.
Par contre, je savais pas que ça allait durer aussi longtemps. Alors, j'essaye de reprendre la chronologie. Bah, des examens en tout genre. Et toujours, bah, le temps qui passe. Et puis, même s'il y a des examens et même si on rentre en PMA, on a quand même envie que ça marche. Mais forcément, les examens, c'est en fonction des cycles. Donc, bah, le temps passe lentement. Plutôt lentement quand on est, quand on commence ce parcours.
Et alors, puis, tu commences par quoi ?
Alors, bah, on a commencé... alors là, bah, le conjoint, enfin l'homme, a un peu d'examen à ce moment-là. Spermogramme, il a que ça d'ailleurs, je crois. Et puis, bah, moi, j'ai fait biopsie, hystérosalpingographie, enfin des noms un peu où on t'analyse les trompes pour voir si elles sont bouchées. Des prises de sang en tout genre pour voir si t'as des manques quelconques qui peuvent empêcher bah, une fécondation. Je pense que j'oublie tout un tas d'examens parce qu'après il y en a eu plein. Et la conclusion, c'est que tout va bien. Donc on rentre dans la case infertilité inexpliquée. On s'est beaucoup posé de questions sur finalement... Enfin, je pense pas qu'il y ait de bonne solution d'être en infertilité inexpliquée ou d'avoir un problème avéré. Il se trouve que dans ma position d'infertilité inexpliquée, ce qui est difficile, c'est que tu sais pas contre quoi tu te bats, en fait. Mmh. Ce qui est facile, c'est que tu te dis que t'as plein de chances. Enfin, t'as les chances d'un parcours classique et les chances d'un parcours médical. Mais par contre, pourquoi t'es en PMA, pourquoi tu subis tout ça, en fait tu sais pas parce que tu vois pas forcément de points qui s'améliorent ou parce qu'il y a rien à améliorer, en fait ça va. Donc c'est assez compliqué à gérer psychologiquement.
Et les médecins ils disaient quoi, que c'était fréquent que...
Alors c'est assez fréquent, ouais. Je crois que faudrait vérifier, mais en pourcentage sur les couples qui sont en PMA, je crois que c'est à peu près 10 à 15% d'infertilité inexpliquée. D'accord. Alors, ce qui est... Alors, chaque médecin, enfin ça, à terme, c'est ma vision, mais chaque médecin a un peu sa vision aussi de la médecine et de la PMA. Donc, moi, la mienne était... Enfin, j'adore ma gynéco, là, c'est redevenu la mienne, on passera dessus, mais voilà. Très à l'écoute... très bienveillante, très douce, qui a pris l'infertilité inexpliquée comme un problème aussi. Enfin, c'est pas un problème, mais comme bah, on va s'occuper de vous. Et il y en a d'autres, bah, si on en a fertilité inexpliquée, et notamment en ce moment avec le projet de loi bioéthique, où en fait, bah, en gros, c'est psychologique. Mmh. Et oui, peut-être, mais on ne sait pas. Et en fait, je pense que sur ce miracle de la vie qui est d'avoir un enfant, il y a du psychologique et il y a du physique, mais dans n'importe quel cas, en fait. Donc, voilà, l'infertilité inexpliquée, pas facile à vivre. Et en même temps, bah voilà, c'est comme ça, c'est la vie, donc on continue. Et puis, ouais, 2016, on commence le parcours PMA avec des inséminations. Donc, au début, en fonction des problématiques, il y a des femmes et des couples qui commencent par juste des stimulations, alors juste entre guillemets, hein, des stimulations ovariennes, et qui ensuite vont avoir un rapport... alors, c'est quand même des piqûres, un rapport programmé, mais par contre, c'est un rapport physique avec son conjoint. Mmh. Donc, c'est à la maison, n'importe, mais... Et les inséminations, c'est les piqûres, la stimulation, c'est le déclenchement, pareil, mais par contre, là, c'est pas un rapport physique. Là, on a rendez-vous à l'hôpital, le conjoint va faire un recueil de sperme, et on vient inséminer le sperme. En fait, on grille une étape, quoi. On l'amène à côté de l'ovule. Et là, par contre, pareil qu'un classique, c'est à voir est-ce qu'un spermatozoïde va rencontrer l'ovule. Et ça, on en a fait 5. Il y en a 6 autorisés dans le parcours PMA classique en France, en tout cas remboursé. Donc on en a fait 5. Donc forcément, 5 sur une année, avec un cycle de pause quand même entre chaque pour se reposer. Y a une année qui se passe. Et il n'y a rien qui se passe en même temps.
Donc là, ça faisait combien de temps en tout ?
On commence à aller sur les 2 ans, parce que ouais, septembre 2014, sur les 2 ans d'attente, après le parcours PMA en lui-même, 1 an. Mmh. Mais 2 ans d'attente globale. Et
qu'est-ce que vous vous dites au bout de ces 2 ans ? Qu'est-ce que tu te dis ?
On se dit, bon bah ok, on a fait ça, il nous faut encore un peu d'aide. Mais tu te poses aussi des questions, parce que tu te dis, t'es en infertilité inexpliquée, là déjà t'as aidé le petit spermatozoïde à arriver, à passer au bout du premier tunnel, quoi. Pourquoi qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il se rencontre pas ? Donc finalement, est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi ? Est-ce qu'il n'y a pas un problème chez mon conjoint ? Est-ce qu'il n'y a pas un problème chez moi, malgré les examens ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres examens à faire ? Bon, non, il n'y a pas d'autres examens, parce que tout va bien. Donc, étape suivante, c'est de passer en FIV. Donc là, t'as quand même une pression en plus, parce que tu sais que t'en as que 4, entre guillemets, remboursés par la Sécu. Tu sais pas du tout comment ça se passe, tu sais pas combien de temps ça va prendre. Et en fait, tu te vois assez vite, si ça marche pas, quoi. Qu'est-ce que je fais après ? Enfin...
Vous êtes accompagnée dans toute cette période ?
Alors, on est accompagné psychologiquement, non. Alors, ça dépend des centres. Moi, j'étais avec une gynéco de ville, entre guillemets, suivie ensuite en PMA dans un hôpital public. Oui, on nous parle qu'il y a la possibilité de se faire accompagner par un psychologue, mais en fait, c'est facultatif. Et je pense que quand même, des fois, d'avoir un petit coup de pied aux fesses pour se faire accompagner, c'est pas mal. Mmh. En tout cas au début. Là, j'en avais pas forcément. Enfin, je ressentais pas encore le besoin de me faire accompagner. J'ai quand même envoyé un message à la psychologue, mais en fait, son planning n'allait pas avec le mien, et finalement, j'ai laissé tomber. Mmh. Voilà. Il se trouve qu'après, pour la FIV3, on a changé de centre, et là, le premier. On avait une séance avec un psy obligatoire en couple. D'accord. Et finalement, c'était hyper bien. Mais pareil, chaque centre en France a un petit peu sa politique et sa manière de fonctionner. Après, j'ai fait privé-public, c'est peut-être ça aussi la différence. Mais à ce moment-là, voilà, pas encore le besoin d'être accompagnée. Par contre, oui, c'est toujours aussi dur, parce que finalement, quand tu te dis qu'à 30 ans, t'es prête, même si les 6 premiers mois, finalement, t'es prête, mais c'est plus sur le papier, et puis il faut un peu de temps, là, t'es vraiment prête, quoi. Et t'es vraiment prêt, même en couple, on était vraiment prêt. Donc, on continue d'avancer, on dit ok pour la FIV, Et là, c'est un petit peu plus compliqué parce que tu as des timings à prévoir, tu as des listes d'attente, surtout dans le public, qui sont très longues. Et donc, bah, en fait, tu as juste qu'une envie, c'est de pas perdre de temps. Alors que les inséminations, là, au départ, les 5, finalement, c'est géré par la gynéco. On déclenche et paf, on va à l'hôpital. Il n'y a pas de délai de c'est à vous de passer ou quoi. Si la gynéco décide de faire une insémination, on va faire une insémination. Mmh. La FIV, par contre, non. Il faut qu'on passe en commission. La commission donne son accord ou pas. Et puis bah, là, on enclenche le cycle en fonction.
Elle donne son accord en fonction de quoi ?
En fonction de bah, ton contexte médical. Alors, pour une FIV 1, oui, elle va te dire oui. Mais aussi en fonction de tous les autres couples qui sont en attente. Encore une fois, c'est le public. Hein. Donc, en gros, pour passer en commission FIV, nous, c'était entre 3 et 6 mois d'attente pour ensuite commencer le protocole. Donc, la première FIV, en fait, ça va. Parce que pendant les inséminations, on anticipe le début de la prochaine FIV. Donc finalement, on démarre assez vite. Mmh. Mais par contre, entre la FIV 1 et la FIV 2, il faut attendre que la FIV 1 soit complètement terminée pour renvoyer un dossier en commission. Et puis bah là, on attend une date voilà, qui est entre 3 et 6 mois pour le public à Bordeaux. Donc bon, c'est un peu... Enfin voilà, quand t'attends, pareil. Hein, en fait, tu te reprends bah, à chaque fois des mois dans la vue. Nous, notre avantage, c'est que ces mois-là, bah, on se disait aussi que ça pouvait marcher. Avantage et inconvénient, parce que en fait, à chaque fois, une déception. Mais vraiment, rien de rien. Même pas... Enfin, en fait, on n'a aucune indication à savoir est-ce qu'il y a un truc qui se passe dans le corps, en fait. Il n'y a rien, enfin, on n'en sait rien. Donc, première fibre, fin 2016, stimulation ovarienne. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir plein d'ovules pour pouvoir les féconder à l'extérieur. Il y a on fait une pompe. Donc je stimule avec des piqûres tous les jours, des rendez-vous tous les deux jours pour contrôler par prise de sang les taux, etc. Et puis arrive la ponction. Donc là, c'est sous anesthésie générale ou anesthésie locale. Pareil, c'est la première, on ne se pose pas de questions, anesthésie générale. On me ponctionne mes petits ovules, je crois que j'en ai une douzaine, donc ce qui est pas mal, enfin on se dit que c'est pas mal. Et puis mon conjoint fait son recueil, et puis bah, là ils font se rencontrer les ovules et les petits spermatozoïdes, et ça féconde. On en a 5 J3 qui sont bien, de bonne qualité. Les autres, à ce moment-là, on n'est pas encore à fond dans le vocabulaire PMA, on ne sait pas s'ils sont morts tout seuls, si c'est qu'ils n'étaient pas de bonne qualité, donc ils ne les ont pas gardés ou quoi. En tout cas, on en a 5. On m'en insémine un frais, un embryon frais, et on congèle les 4 autres. Et en fait, c'est ça qui fait que d'une personne à l'autre, d'un couple à l'autre ou d'une femme à l'autre, la FIV peut durer longtemps, entre guillemets, parce que la FIV, c'est finalement stimulation, ponction, insémination, congélation, décongélation et retransfert. Donc nous, à chaque fois, une FIV, elle a duré un an, en gros. Parce que bah, première FIV, première ponction, transfert frais, cycle de repos, transfert d'embryon congelé, cycle de repos, transfert d'embryon congelé, pause, vacances, centre qui ferme, ouais. Qui partons, enfin bon, voilà, donc ça dure un an. Et rien. Voilà. Donc.
Comment tu réagissais à chaque fois?
Bah là, ça commence à être vraiment dur. Parce qu'on se dit quand même, enfin, c'est des embryons, c'est un début de vie. Donc c'est que ça se passe bien. Il y a aussi d'autres couples qui font des FIV ICSI. Donc là, c'est l'ovule et le spermatozoïde. Et c'est le biologiste qui va venir rentrer le spermatozoïde dans l'ovule. Donc finalement, la fécondation, elle est encore plus assurée. Nous, ils ont mis les deux dans une petite boîte, là, et ils ont laissé se faire. Et ça marche. Mmh. Donc on se dit, bah quand même, c'est que ça féconde. Donc même avant les inséminations classiques, et puis bah, même nous, quand on a des rapports, ça doit féconder. Donc qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est là que, bah, qu'on découvre que tout ce qui se passe après, bah, le médical, il n'en sait rien. Et il ne maîtrise rien. Avec le recul, Bah oui, ok, ça fait partie de la vie. Sauf que quand on est en parcours PMA et que on a qu'un seul désir, c'est que ça marche, bah on se dit, mais qu'est-ce que vous faites, quoi? Aidez-nous, je sais pas, vous avez pas des caméras, on fait tellement d'examens dans tous les sens, on peut pas, par une prise de sang, se rendre compte de s'il y a une nidation ou pas, en fait, parce que c'est là tous les enjeux qu'on a compris après, c'est que, ok, il y a l'embryon, mais maintenant, il faut qu'il s'accroche. Et donc, a priori, c'est que moi, il s'accrochait pas. Donc là, ça devient compliqué, d'autant plus pour moi, psychologiquement, parce que je me dis, bah, c'est moi, la femme. C'est moi, ça accroche pas, quoi. Finalement, au début, on se dit encore, bon, il y a peut-être un petit peu de toi aussi, c'est peut-être pour ça que ça marche pas, enfin, c'est nous deux. Mais là, en fait, bah non, c'est moi, pourquoi ça s'accroche pas dans mon corps, quoi. Donc, bon, bah voilà, on continue d'avancer. FIV 2. Alors là, on est en fin d'année, programmation, enfin, la FIV 1 se termine. On anticipe la FIV 2, 5 mois d'attente. Donc je crois que c'est entre octobre et puis février, ou mars même, on avait notre date pour le protocole de la ponction de la FIV 2 en mars. Et là, moi, je suis à... ça me paraît loin maintenant, mais je m'en souviens, on était en vacances. Et là, moi, j'étais... adoption, quoi. Enfin,
oui.
Moi, je ne me vois pas... Enfin, c'est trop dur, en fait, à chaque fois, d'attendre, d'y croire et bah, de voir que ça marche pas et qu'on sait pas pourquoi. Donc, et puis, on sait que l'adoption... Alors, pareil, c'est comme la PMA. On entend PMA ou on entend adoption, mais en fait, on sait pas trop ce qui se passe derrière. On sait que c'est bon, mais c'est tout. Donc, moi, j'étais là, ok, je sais que ça va être galère et tout, mais justement, faut commencer maintenant, comme ça... On fait notre FIV 2, et puis le temps que l'adoption se mette en place, qu'on découvre ce qu'est l'adoption, et ben peut-être que ce sera à la fin de la FIV 2, et puis on entamera l'adoption et machin. Et par contre, mon conjoint, pas du tout. Lui, alors est-ce que c'est masculin, féminin, je sais pas, mais c'est étape après étape. Et là, l'adoption, c'était trop tôt.
Il n'arrivait pas à se projeter dans une
pas adoption. Du tout. Pour lui, ça allait marcher. Oui, bah trop tôt, enfin arrête de faire 36 000 trucs en même temps, concentre-toi sur ce qu'on fait, et puis ça se trouve ça va marcher en mars, ça se trouve ça va marcher demain, donc non. Donc là, un peu dur.
Est-ce que ton désir de devenir mère, il grandissait d'autant plus que tu n'arrivais pas à le devenir?
Ouais, bah oui, parce que... Mais c'est ça qui est pas évident, c'est qu'en fait, je pense qu'il y a aussi cette frustration de pas y arriver, et donc du coup, de faire la part des choses entre le désir profond et le désir de réussir. Et en fait, tout se mélange. Et quand on est sur le moment, pareil, encore une fois, là, je parle avec le recul, mais je pense que sur le moment, on ne fait pas gaffe. Et là, avec le recul, je me dis peut-être que j'étais mélangée par ce désir de réussite. Et en fait, à partir du moment où on rentre dans ce protocole de PMA, bah, on n'a qu'une envie, c'est d'y arriver. Après, de se poser les questions sur qu'est-ce que c'est d'être mère, qu'est-ce que c'est d'être parent, qu'est-ce que c'est... En fait, ça a commencé vraiment là. On s'est dit... ça a commencé parce qu'il fallait qu'on réfléchisse finalement à qu'est-ce qui se passait intérieurement, quoi. Mais dans tous les cas, oui, ça grandit de plus en plus. Et puis, moi, j'étais encore focalisée à fond sur mon âge à ce moment-là. Alors, tout le monde qui me dit « t'es encore jeune, c'est bon, etc. » Mais moi, je sais pas, c'était... J'ai hyper mal vécu, en fait, le début... Le fait de ne pas y arriver à 30 ans et le fait de voir mon âge, chaque année, un anniversaire en plus et de ne pas, pas être maman, de ne pas être parent, quoi. Ça, c'était hyper dur. Donc l'adoption, je mets de côté par défaut. S'il n'y avait eu que moi, j'aurais continué, mais voilà, on est deux. Par contre, je commence quand même un petit peu à me renseigner de mon côté. Donc, et notamment à me renseigner, surtout en parlant avec des gens qui ont adopté. Pour savoir comment ça se passait, comment eux l'ont vécu et à quoi je devais m'attendre. Et effectivement, c'est pas mal de se renseigner et d'entendre des histoires parce que je me disais, c'est chaud quand même. Et puis, il y avait notamment un point que j'ai appris, c'est qu'il fallait être marié pour adopter. Et nous, on était que paxés, ce qui me convient parfaitement, mais je me disais, là, faut qu'on se marie. J'ai rien contre le mariage, mais j'avais pas envie de me marier pour un truc technique, quoi, en fait. Pour avoir un enfant. Enfin, pour moi, on se marie enfin, c'est voilà, chacun sa vision, mais j'avais envie de me marier pour autre chose, pas pour arriver à atteindre un objectif, quoi. Donc bon, voilà, les choses ont passé. Je passe sur le fait que, bah, entre-temps, il y a des annonces de grossesse de part et d'autre, évidemment.
Comment tu le vivais, ça ?
Très très dur. Je crois que c'est le truc le plus dur, en fait. Enfin, au-delà de sa souffrance perso et de sa souffrance de couple, que finalement, nous, on vivait à deux, parce que peu de personnes étaient au courant de ce qu'on vivait.
Ah oui ?
Ouais, on n'en a pas du tout parlé.
Pourquoi ?
Alors, je pense que de base, je suis assez, assez réservée. J'ai toujours considéré que c'était un projet intime, de couple, et qui, en fait, ne regardait que nous. J'avais pas envie de dire, bah là, on a fait un câlin ce week-end parce que J14... Enfin, on le dit pas dans la vie. Enfin, en tout cas, j'avais pas l'impression. J'avais pas envie de le dire dans le médical, quoi. Donc, peu de personnes étaient au courant. Je sais même pas quand est-ce... Enfin, peut-être que je l'ai dit à ma mère au tout début, mais j'ai juste dit, bah voilà, on commence une PMA, et puis point. Je suis jamais rentrée dans les détails. J'ai une amie à qui j'en parlais au début, et il se trouve qu'elle est tombée enceinte deux fois pendant notre parcours. Et donc, bah oui, ça a été de plus en plus dur à gérer, et du coup, je me suis renfermée, parce que je pouvais plus en parler après. Donc les annonces de grossesse, ouais, c'est hyper chaud. Mais pareil, il faut faire bonne figure. Donc on continue d'avancer.
Donc t'allais voir tes amis avec leur bébé, leur nouveau-né ?
Alors non. En fait, il se trouve qu'on n'a pas beaucoup d'amis proches avec des bébés quand même. Enfin, ceux qui nous ont annoncé, finalement, on les a pas beaucoup vus. Et vu qu'on avait déménagé aussi, on s'est fait d'autres amis, mais alors soit ils avaient déjà des enfants, et du coup c'est pas pareil, soit on venait de les connaître, et donc bah pareil, c'est pas la même chose. Ma sœur est tombée enceinte, ma petite sœur est tombée enceinte, elle était loin, elle était en Nouvelle-Calédonie, donc oui, ça m'a fait mal, mais finalement, pareil, à chaque fois, la vie a fait que c'était une douleur intérieure, mais que j'ai réussi à la gérer, on va dire, socialement parlant. Donc, bah, on continue d'avancer. Voilà. Et là, par contre, je commence à faire tout ce qui est médecine alternative. C'est-à-dire acupuncture, ostéopathie gynécologique, naturopathie, qu'est-ce que j'ai fait encore ? Parce que j'ai fait plein de trucs... plein de trucs. Je teste. Micro-kiné. Il n'y a rien qui... Enfin, en fait, c'est ça, c'est pareil. C'est que je teste des choses, je sais pas quoi dire à ces personnes que je vais voir, à ces praticiens. Je leur dis, tout va bien, en fait. Donc, qu'est-ce que j'ai à gérer ? Du psychologique, j'ai l'impression que tout va bien. Enfin, on me pose des questions sur mon enfance. Bon, oui, bah, j'ai pas eu de traumatisme. Je me dis, tout va bien. Enfin, même psychologiquement, finalement, j'avais l'impression qu'on continuait d'avancer avec la douleur, mais que j'avais une capacité à prendre cette douleur, en fait, et à la garder, et voilà. Donc, FIV 2. Et là, par contre, quand même, avec le temps, on apprend à savoir un petit peu plus ce qu'on veut, à s'écouter. C'est peut-être ce que les médecines alternatives m'ont appris avec le temps, d'ailleurs. C'est à m'écouter, même dans un parcours accompagné, à dire, bah ok, on peut pas avoir de réponse, mais par contre, moi je le sens comme ça, peut-être que on peut explorer cette piste. Donc FIV 2, je veux pas d'anesthésie générale, je le fais en local. Ça se passe beaucoup mieux en local, enfin j'arrive à mieux le vivre parce que en fait je ressens tout ce qui se passe. Alors pareil, ça va dépendre des femmes, hein, mais ça se passe bien. Je crois que pareil, une quinzaine d'ovocytes, génial. Ça féconde, génial. Même résultat, 6 embryons, J3. Ok. Donc là, J3, c'est la politique du centre où j'étais, à Bordeaux. On se dit, mais quand même, là, je commence à entendre le fait que des fois, il y a des J5, des J6. Pourquoi nous, on pousse pas un peu plus loin l'évolution de l'embryon à l'extérieur pour déjà savoir s'il est viable 2 jours après, quoi. Mais non, c'est leur politique J3. On fera du J5 après. Ah ouais, mais bon, enfin, en attendant, c'est quand même mon corps, quoi. Et puis, bah, nous qui attendons, etc. Mais bon, bah, pas le choix, hein, c'est fait, J3, voilà. Insémination.
Comment tu le vis, toi, d'ailleurs, physiquement ?
La ponction.
Ouais, tout ce parcours.
Alors, physiquement, bah, j'ai de la chance, je grossis pas. Au niveau des hormones et du mental, en fait, c'est hyper... Enfin, je sais pas si c'est spécial à moi ou pas, mais j'avais du mal à essayer de me dire il y a un truc qui se passe et ça impacte en négatif sur mon corps. C'est pas très clair, mais en gros, je me faisais des piqûres, je me posais pas de questions. Mmh. Et oui, peut-être que j'étais de mauvaise humeur, peut-être que j'avais envie de pleurer, mais en fait, bah, je me disais ok, bah, faut y aller, j'y vais, quoi. Et... mais voilà, mais ça me... Enfin, physiquement...
T'avais pas une fatigue particulière ?
J'ai pas l'impression. Je pense que c'était plus moralement avec le temps, mmh. Ou un moment ça a vraiment pété. Mais physiquement, j'avais pas l'impression. Alors peut-être que moralement, c'est le physique qui sait que j'ai gardé en moi pendant longtemps, mais j'avais rien de particulier. Et d'ailleurs, petite anecdote, on me découvre au début de la PMA un problème de thyroïde. On m'envoie faire une endocrino. Pareil, alors là, je ne me pose pas de questions. Je vais la voir elle. On me dit elle, je vais la voir elle. Elle me dit, ok, lévothyrox. Ah, ok, bon, médicaments. Là, je me renseigne, médicaments à vie et tout. Je dis, ah ouais, mais pourquoi ? Ouais, bah vous avez la maladie d'Hashimoto. Ah, ok, d'accord, maladie d'Hashimoto, c'est quoi ? Maladie auto-immune et tout, bon. On me dit les symptômes de la maladie. J'avais aucun symptôme. Donc j'étais là, mais... Je comprends pas, enfin... Ok, tu comprends pas, mais t'es en parcours PMA, tu veux une grossesse, prends du lévothyrox, et puis voilà. Je prends du lévothyrox, ça change rien du tout. Et c'était au moment où il y a eu la polémique là avec Bayer sur le changement de formule du lévothyrox, je sais pas si t'en as entendu parler, et où t'as tous les patients qui en prenaient depuis des années qui ont senti vraiment le changement de formule. Moi, je change de formule... Pareil, aucun changement. Donc là, je me dis, enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi, en fait, j'ai...
On détecte plein de choses, mais en fait, t'as aucun...
Mais en fait, moi, je ressens rien. Mmh. Et pareil, je suis jamais malade. Alors, les choses se mettent petit à petit en place. On me dit, c'est bizarre. Ouais. Bon. Mais je continue. Avec quand même ce petit truc de lévothyrox qui me chagrine, mais j'ai pas le choix, en fait... Enfin, j'ai pas le choix, je suis en parcours PMA, je veux un enfant. Bon, je continue. Donc, je reviens sur cette FIV2. Donc, physiquement, bah oui, après la ponction, c'est dur, mais je m'en sors. Et pareil, ouais, y a qu'une envie, c'est d'avancer. Donc, je me pose pas de questions. On se pose pas de questions. On prend, quoi. Et on digère. Et là, je fais un transfert frais. On commence à en mettre 2. Alors, parce qu'à un moment, on en mettait qu'un, mais là, on en met 2. Au début, on en met qu'un au début parce qu'il y a l'âge. Parce que pareil, politique de centre, où ils veulent pas forcément en mettre un au début parce qu'il y a des chances que ça marche. Grossesse multiple à risque. Bon, il y a un moment, on a dit non, mais là, c'est bon. Enfin, dans tous les cas, même nous, on est prêts à avoir des jumeaux, franchement... Et c'était vrai de vrai. Au début, on acceptait un parce que vraiment, on disait quand même des jumeaux, là, si ça marche, voilà. Mais là, non, jumeaux, ok, moi, il n'y a pas de problème. Et même mon conjoint, ça me fait mal parce qu'il a aussi peur des jumeaux. Et là, non, moi, c'est bon, 2. Et puis au moins, c'est fait, on en a 2. Voilà. Donc, on doit alterner entre 1 et 2. On doit faire des calculs en fonction des mois pour savoir jusqu'à quand on tiendra pour les vacances du centre et puis ensuite relancer la FIV 3, etc. Et puis, juillet 2018, ouais, c'est ça, juillet 2018, mon conjoint est en déplacement et on a quand même un transfert à frais, un transfert à faire avant la fermeture du centre. Et là, normalement, il faut que le conjoint soit là. Ils acceptent qu'il ne soit pas là. Et alors là, t'as l'impression, pareil, ça dépend des centres. d'être dans un film, un film d'espionnage, c'est que on lui donne un code avant son déplacement et on lui dit le jour J, je me présente, madame se présente, nous on va vous appeler, on va vous dire monsieur machin, donnez-nous votre code. En fait, on doit vérifier que vous êtes vivant. Ouais, non mais hallucinant. Ok, et là, sauf qu'en fait, il était en déplacement à l'étranger et avec un réseau un peu pourri. Donc on fait tout un truc, on prévient mon beau-père, son père, la même voix, le même nom de famille. On lui dit, bah voilà, tu vas recevoir. Si moi je réponds pas, tu vas peut-être recevoir un coup de téléphone. Tu dis oui quand on dit ton nom, tu donnes le code, tu raccroches. Et voilà, et ça s'est bien passé, il a eu du réseau et c'est lui qui a répondu, il a donné son code. Et donc je me suis fait inséminer.
Mais sinon il bloquait tout parce qu'il faut être un couple.
Ouais. Ouais, dans ce centre-là, ouais. Donc je me suis fait inséminer de mes deux petits embryons, toute seule. Mais ça allait, voilà. Et puis, bah, on allait partir en vacances, je fais un test de grossesse, chose qu'il ne faut pas faire, il faut aller jusqu'à la prise de sang pour contrôler le taux de bêta-HCG, et moi je fais un test en amont, négatif, donc comme d'hab, sans surprise, mais blanc de chez blanc, franchement, parce qu'à chaque fois je le regarde dans tous les sens, la lumière et tout, mais blanc de chez blanc, donc je me dis bah ok c'est mort. Donc j'envoie un mail à ma gynéco, je lui dis on part en vacances, voilà, ça n'a pas marché, on reprendra à la rentrée, tant pis, et voilà. Et je ne fais pas ma prise de sang. Et on part en vacances en rando-vélo, sur 15 jours, avec rando à pied après, nos sacoches, etc. Et puis voilà, je me dis bon bah, on va prendre du temps pour nous, ça va être un cycle naturel, on a encore toujours nos chances, on est toujours en infertilité inexpliquée. Et voilà. Je reviens juste un petit peu avant quand même. C'est que là, je crois qu'on arrivait à 9 embryons transférés au total, viables. J'apprenais à m'écouter au fur et à mesure. Et là, je dis, mais il faut des examens complémentaires. Enfin, là, c'est pas normal. Hein, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et on nous autorise les examens complémentaires. Ça, avant le transfert de juillet. Donc on refait d'autres examens. Moi je fais une IRM pelvienne pour voir si j'ai de l'endométriose, une chose qu'on aurait pu regarder avant quand même, mais bon. A priori j'ai un début, enfin un stade genre 0 plus ou même pas 1, mais il y a un petit truc, mais rien de, a priori ça les alerte pas, j'ai pas d'adénomiose. Je fais plein d'autres trucs, je refais une hystéroscopie, les trompes sont normales. Et là, c'est des examens de non-implantation à un moment. Voilà, donc je fais tout ça. Bon, rien. Ah si, j'ai des anticorps un peu élevés. Bon, voilà, mais... Bah non, on dit...
toujours inexpliqué.
Toujours inexpliqué. En fait, on ne peut rien vous proposer de plus que ce qu'on fait là, quoi. Mmh. En se disant, bah, à un moment, ça va marcher. Donc, et moi, je continue à côté mes médecines alternatives. Je change d'endocrino, parce que là j'étais. Enfin, quand même, je me disais. Et j'en trouve un super qui est prêt à me faire arrêter le lévothyrox en me disant mais n'importe quoi, on va pousser les examens, votre TSH, enfin donc le taux lié à la thyroïde, en fait elle se trouve normale. Donc, j'ai pris pendant 2 ans du lévothyrox pour rien. Et par la nutrition et par des massages lymphatiques. En fait, il arrive à me rééquilibrer, moi avec lui, j'arrive à rééquilibrer tout ça, j'arrête le lévothyrox. Et c'est vrai que je me sens bien dans mon corps. Et donc, je reprends à juillet, on part en vacances, et puis bah, là, vers J10, donc J10 de mon nouveau cycle, un coup de poignard dans le ventre. Mais vraiment, on allait partir le matin en faire du vélo et... Tiens, c'est bizarre. Des fois, j'ai un coup de poignard quand c'est l'ovulation ou quand c'est les règles, mais là, je trouve que c'est un peu tôt, mais bon, c'est ok. Ton corps est quand même un peu chamboulé. Donc, tu me dis que ça peut arriver à ce moment-là. On monte sur les vélos. Prochaine étape, là, en fait, on descendait la côte atlantique. Et puis, bah, au moment de faire du vélo, là, un moment, je sens quelque chose un peu couler. Donc, je me mets dans un petit coin de forêt, là, je regarde, et là, je vois un peu de sang. Je dis, tiens, c'est quand même bizarre, j'ai jamais saigné au moment de l'ovulation. Je sais que chez certaines femmes, il peut y avoir des petits symptômes comme ça, mais moi, ça m'était jamais arrivé, j'ai dit, un truc bizarre. Bon, ok, on continue. On arrive le soir à notre hôtel, parce que c'était rando vélo luxe hôtel le soir. Et je lui dis, je vais quand même faire un test d'ovulation, parce que bah, si j'ovule, tant mieux, quoi. Enfin, go. Je fais un test d'ovulation, et là, mais direct, deuxième barre, rose de chez rose. J'ai quand même agité, c'est bizarre, parce que des fois, je vois, enfin, je faisais souvent des tests d'ovulation, mais je voyais l'évolution de la barre qui grossissait de plus en plus. Mais là, elle était à fond agitée, c'est bizarre. J'ai dit, je vais faire un test de grossesse. Et je fais un test de grossesse. Et alors, trop drôle parce qu'on était dans un hôtel où on avait les toilettes dans le couloir. Dans mes toilettes, super glamour, je fais mon test. Et là, positif. Mais la première fois de ma vie que c'est positif, quoi. Donc, alors qu'on imagine, je pense que c'est pour tout le monde pareil, mais t'imagines l'annoncer à ton conjoint à la manière d'une princesse, enfin bon, romantique, quoi. Bah là, j'arrive dans la chambre et je dis non, mais là, tu vas pas croire, mais en fait, c'est positif, quoi. Dis quoi ? Il était 22h ou 23h, mais enfin, du coup, c'était. Enfin, c'était horrible parce que là, on a vraiment ressenti le fait qu'on est content. Mais en fait, t'es pas vraiment content parce que tu sais qu'il y a un truc qui est bizarre, quoi. Enfin, tu sais que c'est pas normal, enfin, tu te poses plein de questions, tu comprends pas. Enfin, moi, normalement, c'était un nouveau cycle. Et si c'était les embryons du cycle de juillet, ça veut dire que j'étais à bah, plus de 3 semaines, enfin, presque un mois de grossesse, entre guillemets, enfin oui, de grossesse, j'ai encore du mal même à me dire et à me rendre compte, mais de ce dernier transfert. Donc, et en même temps, on a envie de se réjouir, enfin, et là, moi, direct, je pense à l'annonce, à mes parents, je savais qu'on avait un mariage en octobre, je voyais toute ma famille, j'étais là en train de dire, ça y est, je vais l'annoncer, enfin, trop bien, et en même temps, bah non. Donc, j'ai pas réussi à dormir de la nuit, évidemment. Et le lendemain, bah, prise de sang. Là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on remonte sur nos vélos ? Est-ce qu'on va à l'autre étape ? Et en même temps, si c'est positif, est-ce qu'on continue le vélo ? Donc, on attend sur la plage avant de reprendre nos vélos. Puis, on avait quand même des kilomètres à faire avant l'autre étape. Et puis, bah, ça, les résultats tombent. Et là, taux pourri. 94 unités de bêta-HCG. Qui en soi a un taux qui montre que oui, je suis enceinte, mais qui ne correspond pas au nombre de semaines de grossesse normalement prévues par rapport au dernier transfert. Donc là, pareil, on se pose plein de questions, on en a mis deux, ça se trouve, il y en a un qui a tenu, il y en a un qui n'a pas tenu, c'est pour ça que j'ai eu mes règles. Enfin bon, voilà, et puis bah là, évidemment, c'est le mois d'août, tout est fermé, la gynéco en vacances, donc moi j'appelle. Les urgences du service maternité, et puis bah tout ce qu'on nous dit c'est bah oui bah attendez 48 heures, refaites une prise de sang et puis vous voyez si ça évolue ou pas. On va aux urgences, là du coup on était à Biarritz je crois, on voit rien à l'écho, le taux continue d'augmenter régulièrement, toutes les 48 heures, je fais des prises de sang dans des villes différentes, enfin bref, j'avais hyper peur de la grossesse extra-utérine. Et puis il se trouve que c'était pas ça et que finalement à un moment le taux a diminué tout seul et puis bah voilà, fausse couche quoi. Et là bon bah là je crois qu'il y a le cumul de plein de choses, enfin de toutes ces années précédentes, parce que là on arrive finalement bah, à 4 ans.
T'as fait une fausse couche du coup?
Une fausse couche, ouais. Une fausse couche dans ce parcours, mais qui était aussi du coup un signe d'espoir en se disant bah c'est parce que c'était moi le problème, c'était l'étape d'après quoi. Et là on s'est dit bon bah ça s'accroche, mais en même temps ça s'accroche mais ça marche pas, enfin, et ça s'accroche à qu'à moitié, donc oui bah là on entend ouais mais c'est super. Alors en fait nous on pouvait se le dire entre nous, donc c'est dur pour les proches hein, mais on peut se le dire entre nous, ok ça nous redonne de l'espoir, mais en fait de l'entendre des autres en disant ouais mais regarde c'est quand même un bon signe, bah en fait c'est hyper dur parce que bah non c'est pas un bon signe en soi, oui ça s'est accroché mais ça a quand même pas marché quoi, Donc merci.
Vous en aviez finalement parlé à vos proches?
Et bah là, ouais, ma mère, enfin toujours pareil, ma mère et puis une amie, mais les étapes principales, quoi. Mais sinon, non. Donc là, ça commence à être hyper dur. Il se trouve que aussi depuis le début de l'année, avec mes médecines alternatives et tout, je m'étais mise à la méditation, qui me faisait vachement bien. Et là, pendant une méditation de l'été, je pense, en parallèle de tout ça, j'ai un déclic. Enfin, je sais pas, j'ai un truc qui se passe. C'était une méditation sur l'arbre. Et en fait, qui parlait, qui m'a permis de voir autrement les arbres. Parce que ça parlait de cycles, finalement, de saisons, de feuilles qui tombent, d'accepter de lâcher ses feuilles, enfin que l'arbre accepte de lâcher ses feuilles pour en avoir de nouveaux bourgeons au printemps, qui vont éclore ensuite avec des fleurs, de ce tronc qui... Enfin voilà, les arbres, il y a des... Bon, je ne suis pas experte en arbres, mais il y a des arbres qui ont des millénaires, enfin des centenaires, et qui grandissent et qui s'étoffent, qui ont des racines, enfin... En fait, tous ces parallèles de l'arbre, je me dis, mais en fait, ouais, en fait, c'est la vie, quoi. Et je commence à me recentrer vachement sur beaucoup plus de spiritualité, de pourquoi on fait ça, et que d'accepter qu'il y a une part d'inconnu et de vie. Et donc, grâce à cette méditation d'arbre, en fait, j'imagine mon projet qui s'appelle donc Mon Arbre pour la Vie.
Tu l'avais trouvé comment, cette méditation sur les arbres?
Alors, j'ai médité avec l'application Petit Bambou.
D'accord.
Je sais pas si... Il doit y avoir une session sur la nature. Et voilà, mais rien à voir avec la PMA ou rien à voir avec la fertilité, en fait. Mais je... Enfin, rien à voir, indirectement. Mais voilà. Et là, j'ai cette idée, mais vraiment dans ma tête, du projet tel qu'il est aujourd'hui. Donc du coup, j'ai créé Mon Arbre pour la Vie, qui est en fait au départ ma thérapie, parce que moi, j'ai essayé de le construire pour moi, pour comprendre un peu mieux ce qui se passait. Et après, je me suis dit, mais si je le construis pour moi, en fait, toute cette vision-là, ce déclic que j'ai eu, qui me permet finalement de lâcher un peu le médical... Et de faire, ou en tout cas de faire des parallèles entre le médical et quelque chose de beaucoup plus lié à la vie, quoi. Et donc j'imagine cet arbre qui finalement évolue en fonction des étapes du parcours. Et plutôt que de voir le négatif du temps qui passe, de la douleur, même si elle est là, en fait je voyais cet arbre qui s'étoffait. Et je me suis dit, en fait un arbre qui s'étoffe et un arbre qui est un vieil arbre, c'est un arbre qui est solide, c'est un arbre qui peut protéger les autres, c'est un arbre qui peut transmettre, enfin finalement qui a plein de qualités et plein de qualités. Et tout ça, ça m'a, je sais pas comment dire, mais psychologiquement ça m'a vraiment transformée. Donc me tourner vers le spirituel, m'apporte beaucoup plus de sérénité, d'apaisement. On passe à la FIV 3, on change de centre, parce que là on se dit quand même... Enfin moi j'attends pas 6 mois encore d'attente là de commission, donc on change de centre. On avait anticipé quand même l'année d'avant à rencontrer une autre gynéco dans un centre privé. Donc il se trouve que là, en 3 semaines on a un rendez-vous, on va dans son bureau. Moi je m'étais dit, allez, on fait rendez-vous, elle va nous dire, protocole janvier 2019. Et en fait, elle nous dit, si vous voulez, là vous êtes à J20, vous avez vos règles, on commence le protocole. Et là, on était en novembre, enfin en octobre. Je dis, ah ouais, là, tout de suite, là. Ok, j'étais pas prête, mais d'accord, go, on démarre, quoi. Donc, FIV3, en fait, dans la foulée. Stimulation, ponction. Et là, pendant la ponction, j'ai quand même une anesthésie locale, pas générale. Mais une toute petite, enfin moi je dis je veux rien, et là je visualise mon arbre, enfin tout ce que je commençais à avoir dans ma tête là, spirituellement parlant. Et en fait ça se passe hyper bien. Je commence à me dire, je sais pourquoi je fais tout ça. Je le fais pour la vie, pour accueillir la vie. Un discours qui change totalement. En fait, avant c'était pour tomber enceinte, expression que j'aime pas du tout, enfin c'était pour être enceinte ou... Et là, c'était pour accueillir la vie, enfin pour ensemble, en couple, se préparer ensemble. Donc la préparation, elle est longue, elle est différente des couples classiques, mais on se prépare à quelque chose de beau qui est la vie, quoi. Et donc ça se passe super bien. Et là, bah pareil, enfin même résultat à peu près, 15 ovocytes prélevés. Et on pousse à des J5, parce que ça c'était la politique du nouveau centre dans lequel on était. On nous en met qu'un, parce que là par contre c'était des J5, donc on nous en met qu'un. Sauf que elle n'était pas pour faire un transfert tout de suite, un transfert d'embryons frais. Elle voulait tous les congeler et qu'on attende, mais sauf que nous, il y avait les vacances de Noël entre-temps. Et en fait, on ne voulait pas que... Enfin, on ne voulait pas attendre les vacances de Noël. En plus, on partait après en Guadeloupe. Donc on a dit non, on veut un transfert quand même. Bon, bah, on fait le transfert, il ne marche pas. Voilà, c'est les vacances de Noël, on part en Guadeloupe. Et puis bah là, on programme la suite. Du coup, il nous en reste 4 congelés. On refait un transfert au retour de Guadeloupe. Toujours rien. Donc là, voilà. Mais du coup, bah, moi, j'ai toujours cette spiritualité derrière, là, que je peaufine. Et ce projet de mon arbre pour la vie que je, voilà, que je continue de construire. Et en fait, ça me fait passer le temps vachement différemment. Enfin, je me dis, bah ok, c'est pas là... Mais c'est une feuille en plus, quoi. Et du coup, c'est un pilier en plus pour le couple.
Donc, ce projet, c'est un site web.
Alors, ce projet, il se concrétise par un site web pour vendre en ligne. Mais sinon, ce sont deux produits que j'imagine pour accompagner les couples et les femmes en PMA. Et justement, leur transmettre, moi, ce déclic, entre guillemets, spirituel et symbolique que j'ai eu, et qui finalement m'a permis de m'apaiser par rapport à tout ce qui se passait, malgré le temps qui passe et malgré les échecs. Et donc je me sens de plus en plus apaisée, alors qu'en fait on arrive à 4 ans et demi, quoi. Et je me sens bien. Je fais de l'hypnothérapie, je rencontre des sophrologues, pour ce projet notamment, qui me font voir les choses autrement. Je continue mon suivi nutritionniste, naturo, etc.
Est-ce que tu échanges avec d'autres... Alors, j'ai vu qu'il y avait une communauté de PMettes et de fivettes.
Ouais. Alors oui, j'étais sur un forum depuis un an. Alors j'étais pas sur plein de groupes différents, j'étais sur un groupe en particulier, et on échange et effectivement ça fait du bien. Et c'est là où... Enfin oui, ça fait du bien. Et on n'est pas seul, quoi. Mais il y a aussi plein d'histoires qui sont douloureuses. Enfin, faut aussi s'accrocher, hein. Enfin, parce qu'il y a d'autres douleurs, mais c'est tout comme les cercles de femmes, en fait, j'en ai jamais fait. Parce que je me suis toujours dit, ok, j'ai déjà ma douleur à gérer, quoi. Si je veux en plus écouter celle des autres qui est complètement légitime, comment faire? Mais donc, oui, il y a ce soutien-là en plus. J'en parle toujours pas, hein, autour de moi. Mais avec ce projet, quand même, je me dis, là, en fait, si je veux continuer, il va falloir que j'en parle. Donc, on rentre de Guadeloupe, etc. Et là, je dis, ok, allez, faut en parler. Enfin, moi, j'ai besoin, finalement, j'ai toute cette image de spiritualité, de symbolique, je commence à redonner du sens à tout ça, et on va en parler. Et donc là, je le dis à des amis proches, mais qui ne savaient pas, alors qu'ils devaient s'en douter, en fait.
T'as eu une pression de la société sur le fait de ne pas devenir maman à 30 ans ou à 35 ans ?
Ah bah, carrément. Carrément, alors pas une pression sur la PMA, parce que ça à la limite...
Non, sur le fait de ne pas être mère.
Mais sur le fait de ne pas être mère, ouais. Mais je pense que c'est pour ça que je le vivais mal au début, en fait. C'était mon âge, on dirait à 30 ans, bah t'es en couple depuis 5 ans, ton conjoint il a 5 ans de plus que toi, bah alors, quand est-ce que vous faites un bébé, quoi. Donc c'était une pression que je me suis mise toute seule, et une pression aussi de la société, ça c'est sûr.
Tu répondais quoi?
Bah, je crois que je répondais rien. J'avais envie de répondre des trucs très méchants, évidemment. Mais je suis pas comme ça, donc non, je répondais rien. Je disais bah non, non, il n'y a pas d'enfant. Mais tu prends les réflexions, bah alors faut qu'on vous montre. Bah alors quand est-ce que c'est? Alors, avec le temps, mais ça c'est surtout au début, parce qu'avec le temps, en fait, les gens, nous on n'en parlait pas, mais. Nos proches, en tout cas, s'en doutaient qu'il y avait un truc. Et finalement, je souffrais peut-être presque à la fin que les gens ne nous en parlent pas. Mais en même temps, on n'en parlait pas. Enfin, donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Je rencontre une hypnothérapeute sophrologue pour le projet de mon art pour la vie. Et en même temps pour moi, j'ai un peu séparé les deux. Et là, bah, pareil, révélation, où je me dis, mais on s'est focalisé sur le fait de devenir parent, moi sur le fait de devenir mère. On peut peut-être être heureux sans enfant, en fait. Parce que bah, pour l'instant, on est heureux. On est en couple, on s'aime. On a vécu des choses difficiles, mais en fait, on s'en est toujours sortis. Ça nous a renforcés, soudés. On adore voyager. On a tous les deux une carrière professionnelle. Est-ce que finalement, on n'est pas bien aussi comme ça? Est-ce que ça peut pas être une autre possibilité? Donc, toute cette ouverture d'esprit me fait, en fait, lâcher prise, ce fameux lâcher prise où pendant 4 ans je pense que j'étais là, ouais ça y est, là j'ai lâché prise, là j'ai lâché prise, ça a marché, mais là j'ai vraiment ressenti en fait ce qu'était le vrai, enfin je sais pas s'il y en a un vrai, mais en tout cas un lâcher prise pour moi où je me suis dit ok, là maintenant faut que la vie elle continue, nous ça suffit, on va arrêter de se mettre entre parenthèses pour ce projet, de toute manière, c'est bon, là, j'ai passé les 27, j'ai passé les 30 ans, je suis plus à un an près. On va laisser couler. Entre-temps, on avait revu d'autres gynécos, enfin... Et pareil, déclic, personne. En fait, dans les gynécos, moi, je cherchais un sauveur. Je cherchais celui qui allait me dire, ok, là, le problème, il est là, on va faire ça, et ça va marcher. Mais en fait, j'ai compris qu'il n'y en avait pas. Parce que la vie... En fait, personne, mais même les médecins en PMA, même si personne, ne peut dire « je vais donner la vie, je vais te permettre de donner la vie », en fait, c'est la vie, quoi. Et pareil, on se dit souvent « pourquoi moi ? Pourquoi ça marche pas ? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie ?» Alors qu'il y a quelqu'un que j'estime plus moins bon, pourquoi lui ça marche ? Et en fait, tout ça, c'est des jugements, mais pour qui on se prend pour se dire bah lui, il peut accueillir la vie et pas moi, ou moi, je peux accueillir la vie et pas lui. Donc voilà, toutes ces réflexions me font finalement me rendre compte que la tolérance, que l'écoute et la bienveillance, surtout envers les autres et envers soi-même, envers ce qui se passe, c'est indispensable, l'acceptation. En fait, je commençais à accepter ce qui se passait. Alors, parce que je me suis ouverte peut-être à mes amis, à qui j'en ai parlé, parce qu'il y avait ce projet d'arbre pour la vie que j'étais en train de construire, parce que j'ai peut-être aussi trouvé des praticiens en phase avec, avec qui j'étais. Je parle pas beaucoup de mon conjoint là-dedans, parce que lui, il m'a toujours soutenue dans ce côté un peu spirituel et symbolique. Mais il n'en avait pas forcément besoin pour lui. Mais pareil, je l'ai accepté. En fait, les premières années, j'étais là, mais pourquoi toi, tu vas pas aussi voir un psy? Pourquoi tu fais pas de l'acupuncture comme moi? Enfin, fais tout comme moi, en fait. Travaille ton truc. Mais en fait, on est différents. Et donc ça, c'est pareil. Du coup, j'apprenais à me dire que chacun va chercher des ressources là où il doit les chercher et là où il peut les trouver. Et tant qu'on a le soutien et l'amour ensemble, en fait, c'est bon, quoi. Et
ça a été dur dans votre couple?
On est passé par des phases un peu compliquées, mais on a toujours énormément communiqué. Donc du coup, on mettait les choses au point sur le fait que chacun avait des besoins différents. On énonçait nos besoins de soutien et ou de « laisse-moi penser comme ça, j'ai besoin d'être optimiste et puis après de m'écrouler ». Et finalement, non, au contraire, ça nous a rapprochés plus que tout, et c'est un petit peu ce que je dis, alors c'est des généralités, mais je pense qu'un parcours PMA, après il y a d'autres expériences, mais soit ton couple il tient pas, parce que c'est hyper dur, soit il tient mais à 200%. Après, ce qui se passe après c'est la vie, c'est encore autre chose, mais non, on a tenu à 200%. Et peut-être pas exactement en même temps tout le temps, mais c'est ça aussi la vie de couple, c'est d'essayer de s'ajuster au fur et à mesure, et par la communication on a réussi à passer tout ça, et voilà. Et du coup j'allais bien, et il y a une phrase de mon hypnothérapeute qui suivait un petit peu toutes ces pérégrinations là du coup depuis début 2019, qui m'a dit essayez de vous dire une phrase, enfin, ou arrêtez de vous dire la phrase que moi je disais, ok, je serai heureuse avec enfant ou sans enfant. J'étais dans cette optique là, mais je disais où. Et elle me disait arrêtez de dire le où et dites vous serez heureuse avec enfant et sans enfant, parce qu'en fait les deux sont possibles à hauteur égale. Et en fait je me suis répété cette phrase et pareil je me dis mais oui, en fait ouais, le et quoi, tout est encore possible. C'est vrai que je suis jeune, voilà, on n'en sait rien. Je lance le projet de mon arbre pour la vie. Donc là je dévoile vraiment, je parle vraiment de tout ce qui, de tout ce qu'on a vécu. Je lance le compte Instagram, il y a une petite photo de moi cachée quelque part, mais sinon je montre quand même pas trop mal la tête, voilà. Mais je me livre, j'écris ce que je ressens, cette vision-là, qui peut paraître bizarre au début d'un parcours PMA, parce qu'en fait c'est de se dire...
Oui, il y a tout le cheminement qui est déjà fait.
C'est ça. Et puis c'est pas j'abandonne. J'ai encore envie d'être mère, évidemment, au plus profond de moi, mais j'accepte qu'il y a une part d'inconnu. Et c'est pas un abandon, c'est juste vivre. Mais voilà, je parle de tout ça. Et là, je me sens bien. Et donc je fais un peu du teasing sur mes produits pendant 2 mois. Avant de lancer la vraie boutique en ligne, je lance la boutique en ligne, on fait un transfert et ça marche. Voilà, magie. Donc je dis pas tout de suite parce que c'est quand même encore fragile, et puis dans tous les cas ça marche, mais pareil, il faut contrôler tous les 15 jours, enfin toutes les 48 heures.
Enfin, est-ce, voilà, que tu, est-ce que tu savais que là c'était potentiellement la bonne?
Alors,
vous êtes pas...
En fait, quand il y a eu le transfert, alors moi par contre, c'est ce que je trouve génial, c'est qu'on a une échographie du petit embryon qu'on n'a pas normalement, mais en fait là on a toutes les étapes. J'ai pas ressenti, c'est vrai que des fois j'entends certaines femmes qui disent là j'étais sur la table du transfert et j'ai senti que c'était lui. Je peux pas dire que je me suis dit ça, par contre, je me suis dit je vais vivre. On va continuer de vivre. Et oui, j'ai la vie là, mais j'accepte que aujourd'hui j'ai la vie, que demain j'en sais rien. Donc non, j'ai pas eu cette petite flamme. Mais par contre, on est parti en week-end juste après. Et alors là, petite anecdote. En fait, je me suis ouverte à tous les signes, mais pas les signes superficiels. Enfin, vraiment à écouter à regarder ce qui se passe autour de moi. Et j'étais encore sur mon vélo. C'était la nuit. On rentre. On était dans la forêt. Avec des pins, donc avec nos petites loupiottes et tout, et on adore regarder les étoiles pour voir les étoiles filantes en se disant ça va être un signe et tout. Mais là on était sur nos vélos, donc je regardais pas les étoiles filantes, mais par contre j'en vois une à travers les arbres en train de faire du vélo. Et là je dis à Christophe, je dis non mais là, en plus elle était incroyable cette étoile filante, elle était énorme, elle a duré super longtemps et je la cherchais pas des yeux et elle était là quoi. Je dis non mais là... Et là j'ai commencé à me dire ok, ça là il y a un truc qui... Enfin je sais pas, on peut pas savoir, mais je me suis dit il y a un truc. Et puis voilà, le truc c'était qu'une semaine après, j'ai fait mon test. Donc j'ai encore fait un test avant de faire la prise de sang. Je suis sur les toilettes, je vois le test, blanc. Je dis bon, ok. Mais j'avais pas envie de pleurer. Enfin, en fait, j'étais bien, ok, c'est pas là. Puis quand même, je re-regarde, et là, bon, il y a une petite goutte. Il y a quand même une ombre, mes toilettes sont assez sombres. Donc je sors, je vais à la fenêtre, je pars, je laisse, je reviens, et là, en fait, je vois la barre qui apparaît. Et là, je me dis, waouh, c'est quoi ce truc? Et en fait, le premier mot qui m'est venu, c'est de dire, merci quoi. Merci en fait. Je peux dire que ça. Merci. Merci de me donner ça maintenant quoi. Et là, c'est magique. C'est magique parce que c'est au bon moment. Enfin, c'est pas les 15 jours après, là, comme la dernière fois, comme la fausse couche. Alors oui, on a peur que. Et j'ai encore peur que tout s'arrête. Mais c'est maintenant, le moment présent. Le moment présent, ça se passe bien. Le moment présent, il y a la vie. Donc je prends le moment présent et on va avancer comme ça au fur et à mesure. Et voilà. Et du coup, et ben depuis ça dure.
T'es enceinte de combien de temps?
Et donc là, je suis enceinte depuis 4 mois et demi. Donc, qui correspond vraiment à l'ouverture de la boutique en ligne de mon Arbre pour la vie. Je ne l'ai pas dit tout de suite, évidemment. Enfin, évidemment, non, chacun voilà, fait comme il veut, mais on a mis du temps à le dire à cette communauté Instagram qui commençait déjà à me suivre sur mon Arbre pour la vie. Par contre, je l'ai dit tout de suite, évidemment, aussi à mes parents, à mes sœurs, et puis petit à petit aux amis, à nos amis. En attendant quand même, pour les amis, en attendant, parce que, alors non pas que je voulais attendre les 3 mois officiels, enfin ce qu'on dit, mais parce qu'en fait j'avais envie de vivre ça rien que pour nous. Mmh. On n'en avait pas beaucoup parlé à nos proches, enfin ou pas à certains proches jusqu'à présent, donc j'avais pas envie de recevoir, c'est peut-être un peu bizarre, mais j'avais pas envie de recevoir leurs félicitations en fait, sans qu'ils connaissent tout ce qui s'était passé avant.
Ouais.
Donc j'avais juste envie de vivre notre truc. Là je crois que maintenant tout le monde grand. Ça y est. Enfin petit à petit. Et voilà. Et il y a toujours cette petite pointe évidemment de stress. C'est ce que je dis régulièrement sur mes posts Instagram qui revient parce que parce qu'encore une fois c'est la vie, mais comme je peux en sortant me faire renverser par une voiture, je touche du bois.
Oui.
Voilà. Mais donc ce qui se passe dans le corps, c'est pareil, c'est la vie. Mais par contre, j'ai confiance en chaque moment présent et on vit pleinement et intensément ce qui est en train de se passer. C'est génial.
Donc 50 parcours.
Donc presque 50 parcours. Enfin oui, septembre 2019, 50 parcours.
Qu'est-ce que ça a changé chez toi, tu penses, tout ce parcours de PMA ?
Bah, ça a changé, en fait c'est pareil, c'est ce que je dis avec le recul, peut-être, mais encore qu'en janvier ça a commencé, mais en fait j'ai pas de regrets. Et ça a amené tout un pan de spiritualité et de bienveillance, même si je pense qu'avant j'étais quand même dans cette optique-là, mais... De bienveillance et de vouloir transmettre en fait une certaine douceur face à ce parcours médical que je n'avais pas avant. Ça m'a appris la richesse de la vie, ça m'a appris à accepter le moment présent, à être beaucoup plus humble face à ce qui se passe, aux événements, à me dire que je ne sais pas ce qui se passe dans la vie de la personne qui est en face de moi, donc à contrôler le jugement, en tout cas à faire attention aux mots. En fait, ça m'a fait devenir la personne que je suis aujourd'hui et ouais, sans regret, vraiment sans regret. Alors, c'est sûr qu'on peut dire que maintenant c'est facile, entre guillemets, mais bon, c'est aussi la vie, c'est comme ça, ça a marché pour nous et ouais, c'est fantastique. Et puis pour le couple, je pense que ça nous fait nous rendre compte. Différemment, ça nous fait prendre conscience différemment de ce que c'est de porter la vie en fait. Et encore une fois, j'ai banni l'expression de tomber enceinte. Non, je suis pas tombée enceinte. Je suis pas tombée. On a accueilli la vie. Mmh. Alors ça a été long. Il y a eu de la préparation, voilà. On a dû s'améliorer sur certaines choses. Voilà. Est-ce que c'est ça qui a joué? J'en sais rien. Mais on a accueilli la vie. On était prêt à accueillir notre vie et à accueillir la vie. Et voilà, je trouve que c'est un chemin qui est fantastique. Alors malheureusement, c'est pas toujours le cas, mais c'est ce qui fait aussi la richesse de la vie, c'est de pas savoir ce qui va se passer. Donc,
Tu continues à échanger avec des femmes qui sont en parcours de PMA?
Et du coup, je continue à échanger, oui, avec cette communauté qui s'est construite au fur et à mesure. Finalement, le projet, je l'ai dévoilé en avril 2019. On est déjà plus de 800 en partant de zéro.
Mais du coup, c'est pas compliqué de continuer d'échanger quand on est enceinte avec justement des femmes qui, elles, n'arrivent pas à tomber enceinte. Comme toi, à l'époque,
ouais.
Tu vivais mal la grossesse de tes amies.
Alors, je me suis posé beaucoup de questions, effectivement, là-dessus. C'est pour ça que j'ai tardé aussi à le dire. Enfin, que j'ai pas voulu le dire tout de suite pour des raisons perso, mais aussi pour nous protéger et puis protéger aussi celles qui suivaient le projet de Mon Arc pour la Vie. Maintenant, j'en parle pas énormément, ma grossesse. Je montre que je suis là pour celles qui veulent en parler. Et j'en parle si elles me font un signe. Et si j'en parle de moi-même, bah, je fais extrêmement attention à la manière dont j'en parle. Mmh. Et finalement, ça peut être douloureux, mais c'est aussi porteur d'espoir pour celles qui sont dans le parcours. Donc c'est toujours pareil, je pense qu'il n'y a pas de règle, c'est de savoir écouter et s'adapter à la personne qui est en face en fonction de l'état d'esprit dans lequel elle est, et de voir que si... je vais pas afficher complètement tout ce qui se passe dans notre grossesse, mais aussi parce que tout comme je n'ai pas partagé tout notre début de parcours PMA, j'ai envie de le garder, j'ai envie de garder certaines choses pour nous, et que c'est aussi des choses intimes ce qui se passe. Donc oui, il y a les grandes lignes, mais voilà. Donc je pense que c'est de se poser perpétuellement des questions là-dessus et de faire attention.
Et tu donnes la parole à certaines de ces femmes d'ailleurs sur ton site, chacune peut témoigner.
Exactement. Quand j'ai lancé le site, je voulais raconter notre histoire. Mais je voulais aussi montrer que c'était notre histoire et que elle pouvait peut-être effectivement être porteuse d'espoir ou pas, mais quand j'ai lancé, à la limite j'étais aussi en parcours encore, mais que chaque histoire est différente, c'est aussi le principe de Mon Arbre pour la Vie, hein, c'est qu'un arbre est différent en fonction de chacun. Donc j'ai laissé la parole sur un blog où j'ai publié au fur et à mesure des témoignages. Je suis allée chercher des femmes qui auraient envie d'écrire. Au début, c'est moi qui suis allée les chercher parce que je sentais qu'il y avait une écriture bienveillante et justement des mots. Parce que même si on a envie de partager, il y a des manières d'écrire. On ne peut pas tout se permettre quand on partage de dire, ou en tout cas, il y a des manières de dire. Donc, j'allais chercher des personnes où je trouvais l'écriture jolie. Elles ont témoigné. Et puis, moi, ça va aussi en même temps avec cette ouverture aux proches. J'ai lancé là depuis cet été la partie dans le blog Lettres ouvertes aux proches, qui sont en fait, alors c'est pas vraiment des témoignages, mais en fait c'est des lettres écrites par des femmes qui s'adressent à leurs proches pour expliquer ce qu'elles vivent, comment elles le vivent et éventuellement comment être face à nous qui vivons un parcours PMA. Parce que c'est ce que je me suis rendu compte, c'est que moi j'en ai pas parlé, j'ai mis du temps, mais c'est aussi très difficile pour les proches de ne pas être maladroit, de savoir quoi dire, quoi faire, être là ou pas. Et finalement, on se rend compte que personne n'a la solution, mais qu'il y a des petits trucs quand même qui sont assez faciles à mettre en place.
Comme quoi, par exemple ?
Comme la discrétion. et puis juste le... Alors ça, c'est mon point de vue, hein, mais on est là et on pense à vous. Mmh. Mais rien que ça, en fait. Et les gens ont plutôt peur... des problèmes de fertilité, parcours PMA, mais en fait on va pas poser de questions tant que eux ne viennent pas. Donc moi je me suis posé beaucoup de questions sur pourquoi j'en avais pas parlé, mais je me suis aussi beaucoup posé de questions sur pourquoi eux ne sont pas venus aussi nous en parler. Et je pense que c'est à chacun de se remettre en question, c'est pas que nous dans notre parcours avec notre douleur, c'est aussi les proches, de faire un travail qui est pas facile mais de d'introspection et de savoir comment être face à toutes ces personnes. Donc là, il y a 7 lettres qui sont publiées pour l'instant. À chaque fois, je pense qu'on voit la particularité de ces femmes et en même temps un message universel qui est que on a besoin des autres pour avancer. Et je pense que tant que ça se fait dans le soutien et encore une fois dans la bienveillance, alors on dit souvent ce mot, mais en fait, tout peut passer. Mais voilà, il faut apprendre à le faire.
Merci beaucoup, Aurélie.
Merci, Jeanne.
Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Et vous le savez, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur l'application podcast de votre iPhone. Pour échanger sur le sujet abordé avec Aurélie, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 43 sur Instagram grâce au hashtag de Tourbillon Podcast et à laisser vos commentaires. À mercredi prochain pour un nouvel épisode.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.